Daniel.
Merci. Ouais.
Alors, bonjour à toutes et à tous. J'ai un peu mal à la gorge ce matin, mais je pense que ça va aller. En tout cas, je veux remercier les amis coréens qui, par leur musique, franchement, j'ai trouvé que c'était magnifique. J'ai rarement entendu quelque chose d'aussi beau. La seule chose que j'ai entendue de plus beau que ça, c'est la parole de Dieu. C'est la voix de Dieu. Voilà, je vous remercie pour ça. Donc ce matin, le thème, c'est « Quand Dieu nous parle ». Et ce matin, je vais apporter un culte témoignage. Voilà, vous raconter comment Dieu m'a parlé et me parle encore. « De l'eau du torrent, et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. » Voilà, il parle au corbeau. Non seulement Dieu contrôle l'univers, mais encore il le dirige par sa volonté et sa parole. Et vous savez, la parole de Dieu n'est pas neutre, au contraire, elle est agissante. Selon le psaume 29, verset 5, la parole de Dieu brise les cèdres. Elle n'est pas non plus impuissante, elle est percutante. Selon Jérémie 23, 29, la parole de Dieu est un marteau qui brise le roc. En fait, elle brise les résistances les plus coriaces. Mais la parole de Dieu est avant tout créatrice. Au commencement, alors que rien n'existait, Dieu créa les cieux et la terre. Et alors que la terre était informe et vide, il dit, vous voyez la parole, il dit « Que la lumière soit, et la lumière fut ». Voilà, la parole est créatrice. Lorsque Dieu parle, c'est tout sauf anodin et inopérant, car la parole crée ce que Dieu veut qu'il soit. Elle est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, Hébreux 4:12. Alors, s'il parle à la nature, Dieu parle aussi et surtout à l'humanité pécheresse, et perdue aussi. Dans le livre de Job, au chapitre 33, verset 15, on peut lire ces paroles d'Élihu. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Retenez bien ça, et on n'y prend point garde. Souvent, Dieu parle sans que nous l'entendions. Alors, la première manière utilisée par Dieu pour parler à l'homme, c'est de lui parler à travers la nature. Cette nature si belle, si parfaite, qu'il a créée par sa sagesse, son intelligence, mais aussi par tout son amour. Hein, quand on voit les belles couleurs qu'il y a sur terre, on peut dire que le Seigneur les a créées pour nous. Romains 1, 18. Du haut du ciel, Dieu manifeste sa colère contre les hommes qui l'honorent pas et ne respectent pas sa volonté. Ils étouffent ainsi la vérité par leur malhonnêteté. En effet, ce qu'on peut connaître de Dieu est clair pour eux, Dieu lui-même le leur ayant fait connaître. Car depuis la création du monde, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient dans ses œuvres. Quand on y réfléchit, ils sont donc sans excuse. Alors, c'est vrai, nous avons quotidiennement cette perfection devant nos yeux et nous n'y prenons pas toujours garde. C'est vrai, nous devrions reconnaître Dieu dans cette nature parfaite et exceptionnelle et dire comme Voltaire, « Bien, l'univers m'embarrasse et je ne puis songer que cette horloge existe et n'est pas d'horloger. » Toute la nature nous parle de Dieu, mais par habitude ou inattention, eh bien, nous préférons dire ben, « tout ceci est le fruit du hasard ». Ou encore « la nature fait vraiment de belles choses », comme si la nature était capable d'intelligence. Pourrait-on imaginer la médecine sans médecin ou Les Misérables sans Victor Hugo? Je pense que non. Malgré tout, si l'homme parvient à croire en l'existence de Dieu en regardant la nature, eh bien, il doit faire mieux, aller plus loin, c'est-à-dire le rencontrer et le connaître personnellement. Alors, pour toutes celles et ceux qui croient en Dieu, qui le cherchent d'un cœur sincère, eh bien, Dieu va parler par le Saint-Esprit, qui n'est autre que la troisième personne de la Trinité. Et le Saint-Esprit, ben, vous le savez, c'est Dieu. C'est l'Esprit du Christ qui sonde les profondeurs de Dieu, selon 1 Corinthiens 2,10. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 16, Jésus dit « Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur, c'est-à-dire l'Esprit Saint, ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, eh bien je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, eh bien il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Le Saint-Esprit vient donc pour nous convaincre. Ça, c'est beau. Il nous convainc de péché. Nous savons toutes et tous que nous sommes pécheurs. Nous voyons bien que nous sommes loin d'être parfaits. Hein. Il nous arrive de mentir, de nous mettre en colère, ou encore de tricher. Mais c'est vrai que nous arrivons volontiers aussi à nous accommoder du péché en disant, de toute manière, tout le monde fait la même chose. Tout le monde fait comme moi. Et puis, on dit aussi, je connais bien beaucoup de gens qui sont bien pires que moi. Hein. Eh bien, le Saint-Esprit, lui, vient parler pour convaincre l'homme que le péché ne constitue pas une fatalité. Hein, on ne peut rien y faire, c'est comme ça. Ni une tare inoffensive. Oh, c'est rien, c'est pas grave de pécher. En réalité, le Saint-Esprit vient convaincre l'homme pécheur que le péché est un véritable poison, un cancer qui le ronge, qui le tue et le sépare de Dieu. Job 33, verset 15, « Dieu parle par des songes et des visions nocturnes quand un profond sommeil accable les humains endormis sur leur couche. » Alors, avant ma conversion, j'étais pas, avant d'être converti, je n'étais pas converti, hein. C'est normal. Et je me souviens avoir vu clairement en songe une nuit, franchement, Jésus, j'en parle pas beaucoup parce qu'on me prend toujours pour un fou, Jésus, en tout cas moi je l'ai identifié à Jésus, sur son trône qui était percé d'épines noires, sur toute la surface de son corps, et il pleurait. Cette vision, je vous assure, m'a totalement bouleversé. Hein. Car elle m'a fait comprendre que les souffrances de Jésus, ces épines qu'il transperçait, eh bien c'était les péchés du monde, et c'est mes propres péchés qu'il portait. Et le Saint-Esprit nous rappelle ou nous révèle que Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Si nous sommes incrédules, eh bien alors nous continuons à demeurer dans le péché. Et puis l'Esprit convainc le monde en ce qui concerne la justice. Quand le Saint-Esprit a convaincu l'homme de la gravité du péché, que son péché fait souffrir le cœur de Dieu, eh bien cela pourrait faire sombrer l'homme dans un profond désespoir. Et voilà pourquoi le Saint-Esprit lui révèle qu'après sa mort sur la croix, eh bien, Jésus n'est pas resté au fond du tombeau, mais qu'il est monté au ciel. Car son sacrifice sur la croix a été accepté par le Père. Et en acceptant le juste sacrifice de Jésus, eh bien, nous sommes rendus justes par l'amour inconditionnel du Christ. Toujours avant ma conversion, hein, parce que je le rappelle, je vivais l'un des plus tristes moments de mon existence. Et je souffrais intérieurement à la suite d'une séparation. Et j'allais vraiment très très mal. Et il y a une collègue chrétienne, donc, de mon travail, qui m'a invité à faire une partie de tennis en double, à quatre. Ben, j'y suis allé, et à la fin de la partie, nous sommes allés boire un verre dans la petite salle qu'il y avait à côté. Et là, je me souviendrai toute ma vie de ce que j'ai vu. L'un des joueurs a posé sur la table, juste en face de moi, sa raquette et son sac de tennis, sur lequel étaient écrits en gras ces trois mots « Jésus t'aime ». Pourquoi c'est en face de moi ? Ben, y a que Jésus qui le sait. Hein. Et imaginez la scène, moi je ne voyais plus que ces trois mots, je ne voyais plus que ça, qui résonnait en moi comme un véritable message d'espoir et d'amour. Et le Saint-Esprit s'est servi de ce tennisman chrétien pour me témoigner de l'amour sans limite de Jésus. Et puis enfin, l'Esprit convainc le monde de jugement. Le monde, qu'il le veuille ou non, est poussé à accomplir les désirs du diable, qui est le père du mensonge et du péché en général. Et en mourant sur la croix, eh bien Jésus a ouvert toutes grandes les portes qui nous emprisonnaient dans le péché. Il nous a, en fait, rendus libres. Et c'est cette bonne nouvelle que le Saint-Esprit vient nous annoncer. Aujourd'hui, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, car le diable a été vaincu à la croix. part toujours au fond du trou. Hein. Je n'avais plus goût à la vie et je suis parti en Équateur. Bah, j'ai déjà raconté plusieurs fois, mais tout le monde ne le sait pas. Je suis parti avec un copain d'enfance pour me refaire une santé en Équateur. Et puis aussi, j'ai essayé de visiter ce beau pays. Et j'étais tellement déprimé qu'un soir, j'ai voulu mourir dans un hôtel sordide de Quito. Et là, dans la salle de bain, j'ai crié à Dieu qui m'a répondu par son Saint-Esprit. « Daniel, pourquoi écoutes-tu Satan ?» Voilà. Cette courte phrase énigmatique qui n'aurait dû avoir absolument aucun impact sur ma vie, parce que j'aurais pu ne pas la comprendre, m'a au contraire amené à prendre position pour Jésus et à me convertir. On se rend compte de l'importance de ce que Dieu m'a dit. Après avoir parlé à l'humanité perdue, eh bien Dieu s'adresse aussi à ses enfants. Dès lors qu'il accepte Jésus dans sa vie, qu'il le reconnaît comme son Seigneur et son Sauveur, eh bien la créature pécheresse devient enfant de Dieu. Et c'est le Saint-Esprit qui le lui atteste. Romains 8, 16, « L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » Est-ce que vous avez reçu ce témoignage du Saint-Esprit ? Vous êtes enfant de Dieu. Ce qui dès lors caractérise l'enfant de Dieu, c'est le fait que le Saint-Esprit vienne habiter à lui dans son corps. 1 Corinthiens 6, 19, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu ?» Et ça, on le sent quand le Saint-Esprit vient en nous. Jules Marcel Nicole, professeur en théologie, écrit, et ça c'est important de s'en souvenir, « Lorsque le Saint-Esprit vient élire domicile en nous, il y vient dans sa plénitude. Il n'est pas une force impersonnelle dont une mesure plus ou moins grande nous sera accordée. Dieu donne son esprit sans mesure. » Voilà, quand le Saint-Esprit vient, il ne vient pas à moitié, il vient complètement. Dieu va donc utiliser toute la plénitude du Saint-Esprit qui est en nous pour nous construire à l'image du Christ. Romains 8, 29, « Ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi destinés à devenir conformes à l'image de son Fils. » Le but de Dieu est de nous transformer d'une manière progressive, nous construire patiemment. Alors, moi j'ai beaucoup apprécié, je ne sais pas où elle est, mais il y a quelques semaines, le beau témoignage de Nadine, et je reprends ce matin son expression très juste, « Le Saint-Esprit se conduit comme un gentleman. » Et je rajouterai, « Et non comme un père fouettard. » C'est souvent ce qu'on croit, que Dieu, c'est le père fouettard. Non, c'est un gentleman. Vous vous souvenez peut-être, avec un brin de nostalgie, de vos premiers pas dans la vie chrétienne ? Auparavant, la Bible, la parole de Dieu n'avait aucun sens pour vous, c'était de l'hébreu. On ne comprenait rien. Enfin, l'hébreu, oui, bien sûr. Puis le Saint-Esprit vous a ouvert les yeux, mais aussi l'intelligence. Et la Bible a trouvé son vrai sens. Elle vous a parlé. Elle est devenue l'authentique parole de Dieu. Psaume 119, verset 140, comme le psalmiste, nous pouvons dire, ta parole est entièrement éprouvée. Et ton serviteur l'aime. Moi, avant ma conversion, j'essayais bien de lire la Bible, mais elle était incompréhensible. J'arrivais pas, je comprenais rien. Après ma conversion, je suis devenu biblivore. Je me reconnaissais plus. Je dévorais les textes bibliques qui me parlaient d'une manière personnelle. Ça, c'était le miracle de l'Esprit. Psaume 119, verset 18, « Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. » Personnellement, la Bible m'a parlé de deux manières différentes. Bien sûr, j'y ai découvert Dieu, sa volonté, l'amour incommensurable du Christ, le plan du salut pour tous les hommes, mais j'y ai aussi rencontré un Dieu personnel qui me parlait personnellement et surtout qui connaissait ma vie sur le bout des doigts. À cette époque, donc, j'étais séparé de Wardia, qui est aujourd'hui ma femme. Hein. Donc, j'étais séparé d'elle, et je lisais dans mon culte personnel, parce que j'étais bibliovore, hein, bon, je lisais le prophète Jérémie. Et là, j'ai senti mon cœur exploser. Bon, c'est une image, hein, attention. Voilà, j'ai toujours mon cœur. Tout le texte de Jérémie 31 parlait de Wardia et de moi, de notre avenir. Alors, je vous citerai seulement deux versets, Mais tout y était expliqué, le passé, le présent et le futur. C'était fou, quoi. Verset 28. « Et comme j'ai veillé sur eux pour arracher, abattre, détruire, ruiner et faire du mal, ainsi je veillerai sur eux pour bâtir et pour planter, dit l'Éternel. » Verset 38. « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où la ville sera rebâtie en l'honneur de l'Éternel. » C'est précisément ce qui s'est passé. Il a rebâti sur nous. Ces versets écrits 700 ans avant Jésus-Christ par un prophète juif que je ne connaissais pas, pour le peuple d'Israël, ont été utilisés par le Saint-Esprit pour me parler et écrire mon histoire. C'est incroyable. En réalité, la première chose que le Saint-Esprit inculque aux chrétiens qui viennent de se convertir, c'est l'obéissance. Auparavant, nous vivions selon la chair et nous pratiquions les désirs de la chair. Aujourd'hui, nous vivons selon l'Esprit, mais nous devons apprendre à obéir à l'Esprit de Dieu. Alors pour les plus anciens, je m'en excuse, hein, j'ai déjà raconté comment, alors que je vivais au début de ma conversion en concubinage avec Wardia, encore, hein, j'ai entendu une voix qui m'a répété toute la nuit ces trois mots, séparation, purification, union. Ben, toute la nuit, c'est long. Hein. Il m'a parlé comme ça toute la nuit. Alors au petit matin, ben, en accord avec Wardia, on s'est séparés. Franchement, l'Esprit, en nous parlant, nous a guidés dans la volonté de Dieu pour nos vies, pour nos deux vies. Voilà, il nous a parlé. Job 33, 16, « Quand ils sont endormis sur leur lit, il leur communique son message et confirme les avertissements qu'il leur donne. » Le Saint-Esprit qui est en nous est un baromètre de notre santé spirituelle. En effet, le Saint-Esprit exprime par ses réactions d'humeur ou sa joie et son contentement dans la plénitude, ou son mécontentement lorsqu'il est attristé. Alors, en ce qui me concerne, ce n'est pas très glorieux, mais j'ai deux fois attristé le Saint-Esprit. Ce n'est pas très honorable de ma part. Le terme « attrister le Saint-Esprit » apparaît la première fois dans Ésaïe 63:10. Alors que Dieu avait secouru et béni Israël, qu'il l'avait aidé, eh bien, Israël avait été rebelle et avait attristé le Saint-Esprit de Dieu. Moi, je me souviens de deux situations. La première, donc Dieu nous avait expressément demandé à Wardia et à moi de nous séparer. Mais il avait un plan bien précis pour nos deux vies. Il voulait nous reconstruire dans ce nouveau plan de vie. Et bon, en fait, ben, je n'ai pas voulu obéir à ça. Quelque part, j'ai été rebelle. J'ai invité un jour Wardia au restaurant pour la reconquérir. Bon, c'est comme ça. Et en rentrant chez moi, eh bien, je suis tombé dans une profonde tristesse, une mélancolie inhabituelle. Et en repensant à cette journée, je me suis dit, oui, c'est ça qui a attristé le Saint-Esprit. Et la seconde, sur laquelle je ne m'attarderai pas, était une négligence dans mon culte personnel, dans ma relation avec Dieu. Et l'Esprit m'a repris et je l'ai senti attristé. Attrister le Saint-Esprit est un acte spirituel qui a du sens. La tristesse du Saint-Esprit que nous ressentons profondément est un indicateur de notre santé spirituelle et de notre orientation de vie. Attrister le Saint-Esprit, c'est aller dans le mur. Et là, la solution, dans ce cas-là, eh bien, c'est de demander pardon, s'humilier et revenir à l'écoute du plan de Dieu. Alors, frères et sœurs, soyons bien clairs, je ne parle pas ce matin d'une tristesse normale, identifiée comme lors d'un décès, d'une séparation, ou lorsque votre équipe de foot préférée s'accroche à la dernière place de la Ligue 1. Non, la tristesse du Saint-Esprit, c'est un état de peine profond et inhabituel, qui est en lien avec une désobéissance. Alors, lorsqu'on entre dans le plan de Dieu, le plan de sanctification, eh bien, nous sommes amenés à nous renouveler à la fois dans notre intelligence, mais aussi dans notre façon de vivre et d'appréhender les événements. Bien souvent, on pense, parce qu'on est chrétien, parce qu'on est enfant de Dieu, eh bien, la volonté de Dieu, c'est de choyer ses enfants, répondre à leurs désirs, les bénir. Et quand ça ne se passe pas ainsi, eh bien, les enfants pensent qu'ils n'en font pas assez, qu'ils ne sont pas vraiment aimés par leur Père, par Dieu. En réalité, Jésus-Christ nous a sauvés, non pas pour que nous recevions, mais pour que nous glorifions Dieu. Et Henri Clarence Thyssen, qui est théologien, écrit « Le principal but de l'homme est de glorifier Dieu, ce n'est pas de recevoir. » Cela est tout aussi vrai pour l'Église dans son ensemble que pour l'individu. « Vous serez saints, dit Dieu, car je suis saint. » On glorifie Dieu en devenant saint. Voilà, le but principal de l'homme, pourquoi Dieu l'a sauvé, c'est pour glorifier Dieu. Et moi, au début de ma conversion, je pensais que plus je faisais pour Dieu, et plus Dieu appréciait et m'aimait. J'attendais en retour des bénédictions, et quand ça ne se passait pas ainsi, eh bien, je demandais à Dieu, « Mais pourquoi, Seigneur? Pourquoi ?» Alors, entendons-nous bien, certes, Dieu s'engage à prendre soin de ses enfants pour voir à leurs besoins, mais pas de se justifier et de répondre « Alors, pourquoi ?» À Job, qui lui a posé 16 fois la question « Pourquoi ?», Dieu n'a apporté aucune réponse autre que « Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins ?» Les desseins de Dieu pour ses enfants, c'est de travailler à leur sanctification. Alors, si nos « Pourquoi ?» n'atteignent ni l'oreille de Dieu ni son cœur, cela ne signifie pas que Dieu soit indifférent à nos demandes. Ce que Dieu attend de ses enfants, c'est que ses enfants lui fassent confiance dans la réalisation de ses plans, de ses desseins. Mais comme c'est parfois long et éprouvant, eh bien, on peut demander à Dieu des encouragements plutôt que des pourquoi. Moi, j'ai souvent demandé, à travers les dures épreuves que j'ai traversées, eh bien, que Dieu me porte et m'encourage. Il m'a toujours exaucé. Il n'a jamais répondu à mes pourquoi, mais il m'a toujours encouragé. Soit par des psaumes, quand j'allais très mal. Il y a des moments où j'allais mal, et Dieu me donnait des psaumes qui correspondaient à l'épreuve que je traversais. Bon, je peux vous lire le psaume 61, une partie. « Ô Dieu, écoute mes cris, sois attentif à ma prière, des extrémités de la terre. Dans ma faiblesse, je crie à toi. Conduis-moi sur le rocher trop élevé pour moi. Oui, tu es pour moi un refuge, une tour fortifiée en face de l'ennemi. » Et ça m'a redonné le moral. J'étais au fond du trou. Dieu m'a placé sur le roc et m'a redonné le moral. Quel bel encouragement on reçoit. Et puis on peut aussi recevoir par exemple des appels téléphoniques inattendus, des cartes d'encouragement, un apport financier inespéré ou encore un événement surprenant quand on demande des encouragements à Dieu. J'ai été découragé dernièrement dans ma vie spirituelle parce que les épreuves se multipliaient autour de moi. Alors j'ai dit à Dieu, je me rappelle, j'étais sur le canapé, j'ai dit à Dieu, « Seigneur, c'est dur, et là, j'ai besoin d'un encouragement pour tenir le coup. » J'avais à peine terminé ma phrase, que Wardian me dit, « Mais c'est quoi la carte qui est sous tes pieds ?» C'est une carte que je cherchais depuis un an. J'avais retourné toute la maison, toute ma voiture, j'avais retourné le canapé, partout, je n'avais jamais trouvé. C'était ma carte de voiture. Elle est réapparue au moment où j'ai demandé à Dieu. Amen. Alléluia. Mais franchement, c'était trop beau, quoi. Job 33, verset 19. Dieu corrige aussi l'homme par la souffrance. Une autre façon que Dieu utilise pour nous parler, eh bien, c'est de nous faire passer par la souffrance. Ça, c'est pas drôle. Wardia et moi sommes souvent passés par des moments difficiles, des moments de souffrance. Mais à travers ces moments douloureux, Dieu nous a parlé de trois manières. La souffrance nous rappelle que nous sommes des êtres fragiles et que nous avons besoin de Dieu. Et puis, elle nous amène aussi à nous humilier. Et puis, elle nous fait enfin mieux comprendre la souffrance des autres. Parce que c'est quand on passe par la souffrance qu'on comprend mieux la souffrance des autres. Dieu nous parle par l'expérience, non pour nous faire du mal, mais pour nous rendre meilleurs. Chaque jour, Dieu nous parle lorsque nous lisons la Bible, qui est la parole. Mais il peut aussi nous parler par la prière. Dernièrement, je priais le matin, comme tous les jours dans ma voiture, en me rendant au travail et en priant pour une personne. Eh bien, j'ai reçu un message pour cette personne. J'en ai pas reçu pour les autres, je le regrette, mais j'ai reçu pour cette personne précisément. Dieu parle par les sœurs et frères qui nous entourent. même par des non-chrétiens. Il parle par les présidences de culte, les chants, les messages. Dieu parle. Au mois de septembre dernier, je lisais dans mon culte personnel Néhémie chapitre 6. Ce chapitre m'a particulièrement parlé. Vous savez, il y a des chapitres qui parlent vraiment très fort. Et Néhémie, lui, s'attaquait à une œuvre importante pour Dieu, la reconstruction de la muraille de Jérusalem. Et il a dû livrer un combat terrible avec l'aide de Dieu contre une force d'opposition. Ça m'avait tellement parlé que je me suis dit, tiens, je vais en parler dans un prochain message. Parce que ça va intéresser tout le monde, parce que c'est un combat qu'on doit tous mener. Eh bien, ce que j'avais pas compris, ce que j'avais pas vu, c'est que ce texte s'adressait à moi. Je n'avais pas compris. Une semaine plus tard, un ouragan spirituel est tombé sur notre famille. Et Satan s'est déchaîné contre nous. Et nous avons vécu 3 journées de tourmente. Satan s'est attaqué à Alicia, à Julia, mes filles, mais surtout à Wardia et moi, en nous attaquant dans nos frustrations, nos faiblesses, dans nos moments difficiles. Et au bout de 3 jours de lutte, eh bien, nous sommes revenus vers Dieu qui nous a éclairés et la paix est revenue comme par enchantement, comme par miracle dans notre famille. Et c'est vrai qu'à cette époque, eh bien, il y a très peu de temps, mais nous faisions l'évangélisation dans la famille de Wardia. Moi, j'en faisais à mon travail et puis je préparais ce message. Si Dieu parle, il n'est pas le seul à parler. L'ennemi parle aussi et nous avons besoin de discernement pour ne pas nous tromper. La Bible nous enseigne, dans Jean 10, que celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent, parce qu'elles connaissent sa voix. Jésus est la porte qui mène au salut. Il est le bon berger. Nous l'avons accepté comme notre Seigneur et Sauveur. Nous le connaissons et il nous connaît par notre nom. Mais nous connaissons aussi sa voix. Car le Saint-Esprit, à travers la Bible, nous l'a fait connaître, la voix de Jésus. On ne peut pas se tromper. Elles ne suivront pas un étranger, mais elles fuiront au contraire loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Voilà. La voix de Jésus construit, rassemble, pardonne. La voix de l'ennemi culpabilise, divise, charge et détruit. Frères, sœurs, sachons discerner la voix de Jésus, de Dieu, du Saint-Esprit et la voix du diable. L'autre chose que Dieu nous apprend, c'est la confiance. Et parfois, Dieu ne nous parle pas pendant un certain temps, il reste silencieux. Il nous apprend sa présence dans le silence. C'est sa présence silencieuse. Il fait silence et nous porte dans ses bras d'amour. Deutéronome 1,31, « L'Éternel, ton Dieu, t'a porté dans le désert comme un homme porte son fils pendant toute la route que vous avez faite jusqu'à son arrivée en ce lieu. » Alors souvenez-vous ce qui était écrit aussi dans le livre de Job 33,14, elle lui dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend pas garde. Peut-être que ce matin, vous vous dites, mais à moi, Dieu, il ne parle pas, il ne parle jamais. Pourtant, je vous assure, Dieu nous parle, certes de manière différente, mais y sommes-nous attentifs? La Bible nous conseille une attitude pour être vigilant, pour être attentif à ce que Dieu veut nous dire. Cette attitude, c'est celle de la sentinelle, qu'on retrouve dans 2 passages bibliques édifiants. D'ailleurs, écoutez plutôt. Ésaïe 21, versets 6 et 11. « Ainsi m'a parlé le Seigneur. Va, place la sentinelle, qu'elle annonce ce qu'elle verra. » Elle vit des cavaliers. Elle était très attentive, très attentive. Puis elle s'écria comme un lion, « Seigneur, je me tiens sur la tour toute la journée et je suis à mon poste toutes les nuits. » Et Habacuc 2, j'étais à mon poste et je me tenais sur la tour, je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Ce qui caractérise la sentinelle et le chrétien, ce sont leurs responsabilités. J'étais à mon poste. C'est ce que dit la sentinelle. Le poste du chrétien, c'est sa disponibilité à écouter. J'avais un jeune patient à Flavigny. Et il me disait qu'il avait une sœur qui était responsable d'un hôtel-restaurant. Et sa sœur, on la surnommait 24-24. Alors j'ai dit pourquoi ? C'est parce qu'elle était disponible 24 heures sur 24. Pour Dieu, est-ce que nous sommes disponibles 24 heures sur 24 ou seulement quelques jours dans la semaine ? Je me tenais sur la tour, dit la sentinelle. Jésus, lui, avait l'habitude, durant son ministère terrestre, de se rendre sur la montagne pour prendre du temps avec son Père. Frères, sœurs, quelle est notre tour, notre montagne ? Avons-nous, chaque jour ou dans la semaine, des moments privilégiés avec Dieu pour l'entendre, pour l'écouter ? Je veillais, dit encore la sentinelle, pour voir ce que l'Éternel me dirait. Veiller, c'est le contraire d'être endormi, d'être assoupi. Alors, s'il est dangereux, coupable, pour une sentinelle de s'endormir, il ne l'est pas moins pour un chrétien. Jésus nous appelle à veiller jusqu'à son retour. Veillez, puisque vous ne savez quel jour votre Seigneur viendra. Elle était très attentive, comme la sentinelle, le chrétien se doit d'être très attentif à ce que Dieu lui dit et lui montre. Dieu ne nous parle pas toujours de la même manière pour que nous exercions aussi notre attention. Il pourrait nous fixer des rendez-vous tous les jours à telle heure pour nous parler, mais il veut qu'on soit attentif à toutes les situations qui existent. Et puis enfin, qu'elle annonce ce qu'elle verra. Nous sommes comme la sentinelle appelée à dire, à témoigner ce que l'Éternel a voulu nous transmettre. Oui, frères et sœurs, Dieu parle, il nous parle, sachons l'entendre et l'écouter. Voulons-nous être ce matin des sentinelles pour écouter ce que Dieu a à nous dire ou veut nous transmettre ? Voilà, c'était le message que je voulais vous délivrer ce matin. Si vous voulez, on va prendre quelques instants.